Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, votre podcast qui débriefe tous les grands prix de Formule 1, c'est tous les lundis d'après-course sur rmc.fr et toutes les plateformes. Les amis, n'oubliez pas les 5 petites étoiles hein, sur les plateformes pour nous noter, c'est super important pour nous. Quatrième course de la saison au Japon sur le mythique circuit de Suzuka, un juge de paix, on vous le disait hein, depuis le début du paddock RMC, qui a enfin rendu son verdict. Et c'est un verdict auquel on s'attendait un petit peu. Retour à l'ordinaire pour la Formule 1. Doublé des Red Bull, Ferrari qui confirme sa deuxième place chez les constructeurs, mais Charles Leclerc a encore terminé derrière Carlos Sainz. Est-il en train de passer à côté de son début de saison, Charles? On va en débattre parce qu'il y a un vrai débat avec l'équipe du paddock RMC, et puis on va rentrer dans le détail de ce Grand Prix du Japon, perturbé par un drapeau rouge en début de course. Le paddock RMC retrouve son team principal. Salut Jean-Luc Roy.
Salut Nico, bonjour à tous.
T'es là Jean-Luc pour chapeauter un petit peu tes fidèles ingénieurs. Alex Caldier et Paul Lafitte, salut les gars.
Hello.
Salut Nico, salut Jean-Luc, bonjour.
Qui c'est qui s'occupe du moteur? Qui c'est qui s'occupe du châssis? Alex, tu prends quoi toi?
Ouais, je prendrai pas le moteur, je suis pas assez bon. Après je risque de finir chez Alpine sinon.
Les gars,
oui,
les gars, on va se replonger grâce à Romain Le Routier dans ce Grand Prix du Japon.
Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time.
Red flag. Deux pilotes se sont accrochés, Daniel Ricciardo et Alex Albon, coincés dans sa voiture sous les pneumatiques, donc le drapeau rouge a été sorti.
It's lights out and away we go again.
L'ennui. Je suis content de voir que ça vous parle. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde.
Box. Man, we need to push now.
Hey, I'm pushing. What are you talking about?
Do not lose time with Sainz. We are racing Norris.
Yes, that was a very lovely race.
Well done, thank you. Top job, guys. Top job.
Moi, je n'en peux plus. Je suis en bout du relais. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer. Bonsoir.
Je suis au bout du rouleau parce que Max Verstappen, il a encore gagné, les gars. Troisième victoire en 4 Grands Prix, 57e succès en carrière. 13e hat-trick d'ailleurs pour Verstappen, hein, c'est-à-dire pole, victoire, meilleur tour en course, doublé des Red Bull. Je vais vous donner le classement de ce Grand Prix du Japon. Hein. Sergio Perez termine 2e, 38e podium en carrière pour lui. C'est encore une fois Carlos Sainz qui monte sur le podium. Il est monté sur le podium à chaque fois qu'il a participé à une course cette saison. 4e, Charles Leclerc. 5e, Lando Norris sur sa McLaren. 6e, Fernando Alonso, qui performe encore sur son Aston Martin. Pardon. George Russell, 7e. Oscar Piastri, 8e. Lewis Hamilton, 9e. Les Mercedes sont une nouvelle fois dans le dur. Et puis, Yuki Tsunoda, qui vient accrocher un point après une sublime course. C'est le premier japonais à prendre un point à domicile, Tsunoda, depuis Kobayashi en 2012. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Lance Stroll qui termine 12e et qui souffre terriblement de la comparaison avec Fernando Alonso. Esteban Ocon et Pierre Gasly, 15e et 16e. Heureusement que Logan Sargeant sur sa Williams s'est planté sur ce circuit, a commis une erreur parce que sinon il terminait dernier, les pilotes alpines. Et puis ce Grand Prix a été marqué par un accident au premier tour entre Daniel Ricciardo et Alex Albon. Ricciardo qui est vraiment dans le dur. Je vous donne le classement des pilotes. Du coup, Verstappen se détache un petit peu, 77 points, 13 points d'avance sur Sergio Perez. Charles Leclerc est 3e de ce classement à 5 points de Perez. Carlos Sainz, 4e, 55 points à 4 points de son coéquipier derrière les deux pilotes McLaren. Et puis suit George Russell. Lewis Hamilton n'est que 9e de ce classement des pilotes après 4 Grands Prix. 10 petits points seulement au compteur pour Hamilton. Et au classement des constructeurs, 21 points d'avance pour Red Bull sur Ferrari. Je vous donne pas le nombre de points d'Alpine, bien évidemment, qui reste cloué en fin de classement. On va aborder plein de thématiques, les gars, mais avant tout, Jean-Luc, bah, tu nous le disais depuis le début de saison et vous nous le disiez avec Alex, avec Eddy, c'est à partir du Japon et allez, de la Chine dans 15 jours qu'on va vraiment pouvoir tirer le premier bilan de ce début de saison en Formule 1. Là, quand même, Jean-Luc, ça confirme un peu les tendances aperçues depuis le début de saison, c'est-à-dire que Red Bull, quand il n'y a pas de problème mécanique, ils sont largement au-dessus avec ce nouveau doublé, et que Ferrari est la deuxième force du plateau. Hein.
Et oui, mon Nico, c'est ce qu'on appelle un euphémisme, effectivement. Alors, comme toujours, vous allez me demander des raisons d'espérer. Bah, allez, j'en ai trouvé une. C'est que l'an dernier, Lando Norris termine deuxième à 19 secondes, presque 20 secondes. Et là, Perez termine deuxième, mais à 12 secondes. Ah oui, mais vous allez me dire, c'est encore une Red Bull. Bah oui, ce sont les meilleurs. Non, c'est clair que là, je crois qu'on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. C'est évident que les autres se sont rapprochés, on l'a dit et redit, et notamment en Ferrari. On le voit bien puisqu'ils ont placé leurs deux pilotes, c'était pas forcément évident avec un Leclerc qui partait 8e sur la grille, mais ils ont placé leurs deux pilotes derrière. On voit que bon, McLaren marque un tout petit peu le pas quand même, hein, malgré tout, même si c'est pas trop mal, mais bon, c'est un peu moins bien. On voit le talent d'Alonso pour tirer le meilleur de l'Aston, et puis bah, Mercedes, je ne sais plus trop que dire, parce qu'on a eu quelques espoirs qu'il soit remonté un petit peu au niveau, et puis en course, c'est pas le cas. Donc Red Bull, sauf erreur magistrale ou progrès considérable des autres, et notamment de Ferrari, je pense que cette fois, oui, on peut commencer à affirmer sans même attendre la Chine, qui sera paradoxalement presque un nouveau circuit, parce qu'il n'y a pas eu de Grand Prix depuis un moment, hein, et Pirelli ouais. le dit d'ailleurs au niveau du choix des pneumatiques à apporter. Allez, on va attendre la Chine pour avoir une revue complète des effectifs, mais c'est pour Red Bull et probablement pour Verstappen, soyons clairs.
Alex, ce Grand Prix du Japon était marqué aussi par l'incident au premier tour entre Ricciardo et Albon. Drapeau rouge, Ricciardo qui commet une nouvelle erreur en oubliant Albon sur sa droite. Bon, ça confirme déjà que Ricciardo est vraiment pas bien sur ce début de saison, et ça a marqué un peu ce Grand Prix du Japon. Hein.
Ça a marqué le début du Grand Prix du Japon. On s'attendait quand même à ce que ce soit des départs musclés forcément du côté de Suzuka, parce que la piste est extrêmement étroite. On est surtout avec des paquebots aujourd'hui de plus de 1000 chevaux. Donc forcément, sur des pistes aussi étroites, ça peut créer du grabuge. Ce qui, par contre, pour Daniel Ricciardo, ouais, c'est vrai que ça non pas ça conclut, mais ça continue un début de saison compliqué pour lui. Je ne suis pas aussi en train de dire que c'est une faute absolue de Daniel Ricciardo. La faute, c'est plutôt aussi un incident de course. On rappelle que les pilotes, ils ont des rétroviseurs aussi petits que... Enfin, ils ont des rétroviseurs très très petits. Hein. Donc c'est très, très très compliqué. C'est vrai qu'il a un petit peu oublié qu'il avait des pilotes derrière lui. Mais surtout au niveau du départ, ça peut référer à un incident de course. Mais c'est clair, ouais, le début de saison de Ricciardo est absolument cataclysmique. On parle d'un pilote qui veut remplacer Sergio Perez l'année prochaine du côté de chez Red Bull. Là, ça est, même si c'est un incident de course ou un incident qui aurait pu être évité, bah ça, il ne fait que 3 virages dans ce Grand Prix. Ça a semblé être un petit peu mieux pour ce Grand Prix pour Ricciardo, avec la séance de qualification qui a été un petit peu meilleure, et s'est nettement rapproché de Yuki Tsunoda. On rappelle qu'il y a eu un changement de châssis aussi, Ricciardo, pour ce Grand Prix, et ce changement de châssis aurait pu payer dans ce dimanche de Grand Prix. Malheureusement, ça prolonge la non-confiance qu'il a. On va dire ça ainsi, le fait qu'il y ait eu ce crash en début de course, parce qu'il ne peut pas réellement se jauger en rythme de course avec ce nouveau châssis. Donc là, il y a toujours une tendance à dire qu'il faut absolument que Ricciardo trouve des solutions pour se remettre en confiance. Et malheureusement, avec ce crash dès le début du Grand Prix, il va falloir attendre dans 2 semaines en Chine.
Paul, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce Grand Prix du Japon ? Bon, les Red Bull, bien sûr, sont indétrônables. On l'a bien vu. Sergio Perez, pour le coup, a assuré. On avait dit qu'à Melbourne, il était passé un petit peu à côté. Là, il a fait le job en terminant derrière Verstappen, Jean-Luc le disait, à 12 secondes. Voilà, on a vraiment une hiérarchie, là, en fait, qui est en train de se dessiner après ce Grand Prix du Japon. On la voyait depuis le début de saison prendre forme, mais on voit que les Mercedes sont un petit peu à la rue. On voit que Ferrari est la deuxième force du plateau, je le disais tout à l'heure, que McLaren assure en tant que troisième écurie du plateau. Voilà, c'est vraiment en train de se hiérarchiser. Hein.
Ouais, c'est vrai. Hormis l'intouchable Max Verstappen, évidemment, Nico, tu le rappelais, qui a abandonné lors du Grand Prix précédent en Australie, il est intouchable. Mais derrière, c'est un beau championnat, parce que Sergio Perez termine à près de 13 secondes de Max Verstappen, mais derrière, Carlos Sainz est à 20 secondes, Charles Leclerc à 26 secondes, Lando Norris à 29 secondes. Ce sont des pilotes talentueux qui se tirent la bourre clairement. Hein, et on l'a vu sur ce circuit de Suzuka. C'est vrai que Ferrari, qui se rate peut-être un petit peu encore en séance de qualification, est meilleur meilleur le dimanche en course, avec un Carlos Sainz, là aussi tu le rappelais, qui lorsqu'il prend un départ, hein, il avait manqué le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il s'était fait opérer de l'appendicite, eh bien, lorsqu'il prend un départ, il est soit en tête, il gagne, comme il y a 15 jours à Melbourne, soit sur le podium, ce qui veut dire qu'il prend confiance, Carlos Sainz, il devient peut-être, j'ai envie de dire, l'égal de Charles Leclerc, mais la hiérarchie aujourd'hui est claire, Red Bull devant avec Max Verstappen, déjà 3 victoires en 4 courses, déjà 13 points d'avance sur Sergio Perez, qui quand même fait une bonne course, hein, sur ce tracé de Suzuka, et derrière les Ferrari, deuxième force en présence, et puis il y a toujours les McLaren, et puis ce Fernando Alonso qui, eh bien, est en train de bien mener sa barque au volant de son Aston Martin, car il est aujourd'hui devant les Mercedes qui sont en train de reculer. Donc effectivement aujourd'hui les Red Bull sont devant, ce n'est pas une surprise, Jean-Luc nous le rappelle à chaque podcast, et derrière eh bien, on se tire la bourre pour grignoter des places, que ce soit sur le podium ou en tout cas dans le top 5 du classement général.
Ah ouais, Fernando Alonso qui est 8ème, on le disait, du classement des pilotes, 14 points d'avance sur Lewis Hamilton et à égalité de points avec George Russell. T'en as un petit peu parlé, alors tu dis Paul que Carlos Sainz devient un peu l'égal de Charles Leclerc, et ça va être un peu notre débat du jour aussi, les gars, je voulais vous entendre sur ça. Parce que moi, je me posais la question en voyant les résultats, en voyant les déclarations aussi de Charles après la course, qu'on a la sensation que Leclerc est en train peut-être de passer à côté de son début de saison. Il est moins performant le samedi, ça c'est une certitude, Jean-Luc. D'ailleurs, on va peut-être l'écouter, Charles, parce qu'il s'est confié après cette course au Japon, et voilà, il dit qu'il y a un problème avec ses samedis là, depuis le début de saison.
Déçu de partir seulement 8ème aujourd'hui, mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi et à la qualif d'hier, donc c'est comme ça. C'était normal aussi qu'il essaye et qu'il tente sa chance, il avait beaucoup plus de perfos à ce moment-là, on était sur une stratégie complètement différente. Donc voilà, non, il n'y avait pas grand-chose à faire contre Carlos à ce moment-là de la course.
Voilà, Charles Leclerc qui s'est fait dépasser par Carlos Sainz. Bon, il est parti 8ème alors que Sainz était bien plus haut sur la grille. Il a fait une très belle course. Et elle est paradoxale, la course de Charles, Jean-Luc, parce qu'il est élu pilote du jour. Il fait une superbe remontée. Il gère parfaitement ses pneus. Il fait une superbe course. Mais encore une fois, il est plombé par son samedi. Et surtout, il y a son coéquipier qui termine une nouvelle fois devant lui.
Ben oui, tu l'as très bien résumé. Puis lui, il a dit, tu sais, ce que j'apprécie, bon, tout le monde le sait chez Charles, c'est son honnêteté. Il essaie pas de se cacher derrière le petit doigt. Il essaie pas de te raconter qu'il avait un problème au frein avant gauche ou qu'il avait des vitesses qui passaient mal. Il dit, bah non, j'ai pas été assez performant. Alors, pour quelle raison ne l'est-il pas? Seul lui le sait, et encore s'il a mis le doigt dessus, parce qu'effectivement c'est une mauvaise qualif, soyons clairs. Et souvent en Formule 1, bah, les week-ends partent de là, hein, quand tu te qualifies aussi mal, c'est-à-dire 8ème sur la grille. Alors quand même, je répète, au niveau des temps, pour un dixième de seconde par rapport, ouais, à Carlos Sainz, hein, un dixième, eh bien il y en a un qui est 4ème et l'autre qui est 8ème. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport automobile et c'est la Formule 1 aujourd'hui. Donc c'est à lui. Avant, il était avant, on va dire il y a encore très peu de temps, c'est lui qui mettait un ou deux dixièmes à Sainz et ça changeait tout. Donc la principale référence d'un pilote, c'est toujours son équipier qui a la même machine que lui, exactement. Bah, là, oui, il se loupe, il est moins bon en qualif, donc obligatoirement moins bon en course. Alors au niveau de son Grand Prix, bah, il le gère, j'allais dire, magnifiquement bien, parce que quand même, il passe de la 8ème à la 4ème place finale, avec une stratégie, alors originale, hein, en ne s'arrêtant qu'une fois, effectivement, ouais, au 27ème tour. Donc, il emmène quand même ses pneus médiums jusqu'au 27ème tour. Ensuite, on lui met les durs et il termine. Et c'était intelligent, très intelligent même de la part de Ferrari, de tenter ce coup-là, parce que sur une stratégie identique aux autres, c'est-à-dire un arrêt autour de la 16ème, 17ème place, hein, ça a été 10ème tour, pardonnez-moi, pour Verstappen, pour Perez, pour Sainz notamment. Et puis ensuite, eh bien, on met les durs, on fait ou les médiums, pardon, pour le deuxième stint et les durs pour la fin. Et bah, il se retrouvait derrière. Hein. C'est évident qu'il n'arrivait pas. Il économise une bonne vingtaine de secondes le temps de l'arrêt au stand. Alors il doit gérer. C'est pour ça d'ailleurs que son tour en course le plus rapide, vous savez que ça m'intéresse toujours beaucoup, n'est que de 1,35 et 44 millièmes en comparaison, évidemment, des trois devant lui qui sont en moins d'une 34, mais c'est normal. Et lui, il fait son meilleur tour au 53ème tour. Et ouais, bah, les autres sont ses destins courts et rapides, ce qui n'est pas son cas. Lui, il gère, il l'a bien fait, mais je comprends qu'il soit déçu puisqu'il n'est pas sur le podium. Et à l'inverse, eh bien, c'est le 21ème podium de Carlos Sainz. Remarquable, là encore une fois, Sainz a haussé son niveau de jeu et je dirais qu'il a une bonne raison de le faire. Vous le savez très bien, c'est que normalement, il est au chômage à la fin de l'année.
Ben oui, bien évidemment. Mais est-ce que, Alex, on peut dire que Charles passe un petit peu à côté de son début début de saison, selon toi ?
Il y a peut-être des raisons à lui trouver, peut-être des excuses à lui trouver que lui ne veut pas admettre. Il veut plus se concentrer sur le fait que lui, il estime qu'il n'a pas été assez bon. Il faut rappeler qu'à Bahreïn, il a eu des gros problèmes de frein qui lui ont causé un Grand Prix de Bahreïn qui était extrêmement compliqué. Mais il est arrivé par miracle, par les termes de Frédéric Vasseur, au niveau de la quatrième place. Mais par la suite de la saison, c'est qu'avec une course de moins, Carlos Sainz a des raisons justement de se montrer à ce tel niveau. Je vais même aller un peu contrebalancer aussi par rapport à Carlos Sainz. Pourquoi il n'a pas fait ça l'an dernier ? Pourquoi il fallait attendre 2024 pour avoir un Carlos Sainz du côté de chez Ferrari ?
Parce qu'il est libéré, oui, j'imagine. Peut-être j'imagine, libéré. T'as plus rien à perdre.
Bien sûr, mais ça peut être l'une des raisons du moins. Mais c'est extrêmement dommage pour la Scuderia Ferrari d'arriver à cette situation, de voir un pilote comme Carlos Sainz quitter Ferrari à l'issue de cette saison. Par rapport à la comparaison par rapport à Charles Leclerc, c'est vrai que bah oui, forcément, tu dis, il y a quand même un pilote comme Carlos Sainz qui bat Charles Leclerc, qui est considéré comme le fils prodigue de la Scuderia Ferrari, qui va partir à la fin de la saison et qui bat à la régulière depuis le début de la saison avec une course en moins, Charles Leclerc. Et c'est vrai que oui, il peut passer, on va dire ça ainsi, à côté de son début de saison, le Monégasque. Les raisons peuvent être différentes, mais il y a beaucoup toujours un peu cet aspect autour d'un peu de malchance ou un peu de sort qui s'acharne peut-être autour de Charles Leclerc. Peut-être que c'est réel, peut-être que c'est un peu dans l'esprit, on va dire ça ainsi, pour Charles Leclerc. Mais la problématique, c'est que sur ce début de saison, tu peux te dire qu'il y a un peu de malchance, bien sûr, comme je le disais, mais par contre, au Japon, non. Au Japon, non. Comment en qualification, Charles Leclerc peut sortir de cette séance et dire « je pouvais pas faire mieux ». Je ne pouvais pas faire mieux et être huitième. Alors bien sûr, un dixième, c'est extrêmement peu. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une... Et fort heureusement, on est dans une saison et dans une ère de la Formule 1 où tous les écarts sont extrêmement resserrés. Ce qui nous permet d'avoir des batailles extrêmement intenses en qualification et en course, à l'exception de Red Bull, qui nous permettent justement de voir si une petite erreur est réalisée, on peut voir un pilote dégringoler ou être encore plus haut s'il réalise une bonne prestation. Et forcément, ça fait un petit peu mise à mal à Charles Leclerc parce que quand on fait la comparaison directe par rapport à la Scuderia Ferrari dans la généralité, Ferrari a quand même réussi à, selon certaines datas, récupérer quand même 6 dixièmes autour par rapport à Red Bull, ce qui est un gars extrêmement important et qui est signe réellement d'un excellent travail du côté de l'hiver, pendant l'hiver du côté de Maranello. Et celui qui met à profit tout ce travail-là, c'est Carlos Sainz qui va partir à l'issue de cette saison. Donc oui, forcément pour Charles Leclerc, il exprime lui son désarroi par rapport au fait que il estime qu'il n'est peut-être pas assez bon. Il conçoit et il concède forcément que Carlos Sainz est meilleur à l'heure actuelle du côté de chez Ferrari. La prochaine étape, c'est la Chine. J'espère réellement que pour Charles Leclerc, ça va mieux se passer du côté de la Chine. Pourquoi ? Parce que forcément, cette question va devenir de plus en plus récurrente. Est-ce que Carlos Sainz est meilleur que Charles Leclerc ? À l'heure actuelle, c'est très difficile d'y répondre, mais sur ce début de saison, y a quand même des signes qui montrent que Carlos Sainz, du moins à l'heure actuelle, est plus en force avec Ferrari contre Charles Leclerc.
Va falloir qu'il inverse le rapport de force, ça c'est sûr. Jean-Luc, c'est quoi la clé, toi qui connais ce monde de la F1 depuis super longtemps, c'est quoi la clé en fait pour être rapide en qualif, ce qui est la grande force de Charles? Mais là, on sent que depuis le début de saison, c'est un petit peu moins le cas. C'est quoi? C'est de la confiance, c'est être à 100% en osmose avec sa machine. Pourtant, l'année dernière, il était très performant en qualif alors qu'il n'avait pas une voiture extrêmement compétitive. Donc, je sais pas, est-ce que c'est simplement mental, c'est un petit déclic?
Oui, c'est tout un ensemble. Alors déjà, il faut évoquer le fait que la monoplace a considérablement évolué. Alors c'est toujours pareil, de l'extérieur, les gens disent toujours « Ah, on a fait la voiture pour machin » ou « On a fait la voiture pour truc ». Ça n'est pas le cas. Là, c'est une nouvelle Ferrari, évidemment. On a tellement travaillé, peut-être qu'elle convient un tout petit peu mieux au pilotage de Carlos Sainz, qui était encore une fois, il ne faut pas le sous-estimer, l'an dernier, il totalise 200 points au championnat et Charles ne le passe que tout à la fin, si vous vous rappelez. Sainz était devant. Il ne le passe, il termine avec 206 points. Donc ça veut dire que l'écart entre les deux est extrêmement réduit. Une nouvelle fois, pourquoi c'est lui qui se retrouve le dindon de la farce, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça? Quand Hamilton est recruté, il faut bien en dégager un des deux, en clair. Or effectivement, du côté de chez Ferrari, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira, on pense que Charles Leclerc a plus de vélocité, de qualité pour s'imposer globalement que Carlos Sainz, qui le pauvre est un peu sous-estimé, mais c'est pas que là, on se rappelle sa carrière par ailleurs, il a toujours été un petit peu le deuxième choix, et c'est, j'espère pour lui qu'il va devenir le premier ailleurs. Maintenant, où va-t-il aller, là aussi je regardais un petit peu l'attitude, parce que le body language est toujours important après l'arrivée entre les hommes, quand ils sont dans la pièce de décompression, oui, là, en train de se regarder. Pérez fait le boulot pour essayer de conserver son baquet, et on sait très bien que Sainz doit lorgner sur le baquet de la meilleure monoplace du plateau. On le sait. Donc, peut-être que Sainz se dit, si j'étais au volant de la Red Bull, je serais beaucoup plus proche de Verstappen, pourquoi pas devant. C'est peut-être ça l'histoire à venir. Donc, encore une fois, je pense, pour la question que tu m'as posée, c'est pourquoi Charles n'arrivait pas. Il dégouille pas, il découpille pas, je vais y arriver. Parce qu'un tour de qualif, il faut vraiment tout larguer. Il faut se dire, je vais employer une expression atroce, mais je meurs sur un freinage. C'est-à-dire qu'il faut y aller, c'est même pas à 100%, c'est à 150%. C'est ça un tour de qualif. Et là, pour des raisons que seul lui connaît, Charles n'y arrive pas pour le moment.
Moi, j'allais dire, Paul, bien sûr, on est journaliste, on cherche des fois la petite bête. Vous me connaissez.
Souvent,
ça nous arrive. Non, mais est-ce que aussi, c'est pas l'arrivée d'Hamilton qui le perturbe? Inconsciemment. Alors, c'est inconscient, il est dans sa saison avec Sainz, c'est le début de saison. On sait très bien que les mecs, c'est course après course, séance d'essai. On joue les matchs les uns après les autres, comme on dit dans d'autres sports. On sait, mais mine de rien, inconsciemment, est-ce que tout ça, est-ce que le fait qu'il y ait Hamilton qui arrive avec ce statut-là, avec ce contrat-là, que je pense que Charles n'était pas préparé à ça, comme personne. Est-ce que ça peut peser sur son début de saison, Paul?
Je ne pense pas. 4 Grands Prix seulement ont été disputés depuis l'ouverture du championnat, et c'est vrai que Jean-Luc le précisait, les écarts aujourd'hui en qualification sont vraiment infimes, et on a d'ailleurs vu sur son seul tour de qualification en Q3, il était quand même au deuxième intermédiaire, il était à 2 dixièmes de Max Verstappen, il se battait pour pourquoi pas la première ligne, il a perdu un petit peu de temps, 3 dixièmes dans le dernier secteur, ce qui lui coûte d'ailleurs sa place dans le top 4 du classement. Donc je ne pense pas sur la vitesse pure que Charles Leclerc doivent être montrés du doigt par rapport à Carlos Sainz. Alors il a certainement pris un petit coup sur la tête en apprenant la signature de Lewis Hamilton à Maranello, mais je pense quand même que sur le début de saison, tu évoquais le classement, Charles Leclerc est aujourd'hui 3ème avec 59 points, et il est à seulement 5 petites unités de Sergio Perez, derrière encore une fois l'intouchable Max Verstappen. Je pense pas que Charles Leclerc pense aujourd'hui à la saison prochaine. Il se bat avec ses armes, avec cette monoplace qui convient effectivement peut-être un petit peu mieux au pilote espagnol, à Carlos Sainz, qu'au monégasque. Et puis rappelez aussi cette statistique, Red Bull a quand même gagné la quasi-totalité des Grands Prix la saison dernière. Le seul pilote à avoir brisé l'hégémonie de Red Bull, c'était à Singapour, une victoire de Carlos Sainz qui a doublé la mise en Australie. Alors c'est vrai que au jeu des victoires, pour l'instant c'est un 2-0 pour Carlos Sainz face à Charles Leclerc, mais sur la longueur d'un championnat, on peut penser que le monégasque sera encore une fois présent au rendez-vous, même si encore une fois on peut le répéter, et je pense que Jean-Luc et Alex ne me contrediront pas, il a pris un petit coup derrière la casquette en apprenant évidemment la signature du septuple champion du monde à partir de la saison prochaine.
Donc tu me dis qu'il n'est pas perturbé, mais qu'il a pris un coup sur la casquette.
Un petit coup, mais il est quand même là présent, il a peut-être pris un petit coup.
Il n'a pas explosé en vol, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, mais ça joue à un dixième, ce que dit Jean-Luc. Mais malgré tout, on sait très bien que dans le monde de la Formule 1, c'est Jean-Luc qui m'a appris ça à mes tout débuts à RMC, il y a une dizaine d'années maintenant, quand même, on vieillit, mon Jean-Luc. C'est que.
Mais non, pas toi.
T'es jugé par rapport à ton coéquipier en Formule 1, oui. Et on le sait.
Alors, juste un petit mot, si vous permettez, on n'a pas le temps de le dire, puis on peut pas tout dire quand même, sinon l'émission va durer 2 heures et ça va être trop long. Juste, il n'a pas eu de deuxième stint, il n'a pas eu de deuxième tentative, puisqu'il avait cramé, et voilà, pour se défendre. Donc c'est il n'a pas eu le deuxième train. Alors est-ce qu'avec un deuxième train il serait parvenu à faire le tour parfait et à revenir, on va dire, sur les deux premières lignes? Moi je pense que oui, mais il a eu qu'une tentative donc en Q3, et voilà, il paye l'addition. Ça tient à des détails comme cela.
Ouais, c'est sûr. Et puis il faut quand même mettre à son actif quand même. C'est ce que me dit Romain, notre producteur. C'est que l'année dernière, quand il y avait des problèmes sur la voiture ou dans les stands, c'était dur de le voir remonter en course, Charles. Alors c'était pas la même monoplace, bien sûr, mais là, alors que c'est dur, alors qu'il est 8ème sur la grille, il met tout en place pendant la course pour aller chercher un gros résultat et recoller à la 4ème place. Donc ça, Alex, quand même, en course, voilà, il montre qu'il est présent psychologiquement, qu'il lâche pas, qu'il reste au contact de Sainz, malgré les difficultés qu'il peut avoir le samedi.
Bien sûr, il faut ne pas lâcher la Skoda Ferrari, même dans les situations compliquées, surtout quand on sait que Charles Leclerc est l'avenir, encore une fois, à l'heure actuelle, de la Skoda Ferrari, avec Lewis Hamilton sur un compte et un plus pour Lewis Hamilton. Ça confirme aussi une chose, c'est que Ferrari, qui était en grande difficulté sur les 2 dernières années avec les longs relais, surtout au niveau de la dégradation pneumatique, Ah bah là, le travail, il a été fait. Hein, parce que là, pour tenir autant de tours sur une piste qui est extrêmement demandeur au niveau des pneumatiques, eh bien, Charles Leclerc a réussi une stratégie quasiment à un arrêt. Je dis bien quasiment parce que le drapeau rouge a un peu faussé un petit peu les stratégies en début de course, puisque beaucoup de pilotes ont changé de pneumatiques, notamment donc Charles Leclerc qui est passé sur une gomme médium. Il est resté très longtemps sur les médiums et ensuite il s'est arrêté, si je me trompe pas, il s'est arrêté au 26e tour en même temps que Lando Norris et il a tenu extrêmement longtemps. Donc ça prouve réellement que du côté de chez Ferrari, le travail durant l'hiver, il a été excellentissime.
Ouais.
Il était sur les médiums, hein, pardon de le préciser. Toujours Charles, parti en médium, comme la majorité d'ailleurs, à l'exception d'Alonso, qui était en soft hein, au début.
Ouais, c'est ça. Je voulais aussi vous entendre, les gars, sur quand même le vent de fraîcheur un peu de ce Grand Prix du Japon, c'est Yuki Tsunoda. Nous, on le dit dans le paddock RMC depuis le début de saison, il est très bon, il est meilleur que Ricciardo, il fait vraiment une belle saison. Alex, voilà, est dans les grilles lors du dernier paddock RMC pour vos grilles 2025. Il y en a même qui l'ont placé dans le baquet de Sergio Perez, peut-être. Tsunoda, premier japonais à marquer des points à domicile depuis 2012, je le disais dans le sommaire, et Kamui Kobayashi, 10e, il s'est arraché, on l'a vu faire un dépassement ultra spectaculaire pour aller récupérer ce petit point quand même qui a fait frissonner le public japonais. C'était chouette à voir, Jean-Luc, là, Tsunoda sur la piste, cette communion avec le public japonais, et je crois qu'ils étaient 230 000 à Suzuka, hein. C'est incroyable l'engouement qu'il y a au Japon pour ce sport, donc c'est quelque chose de particulier de voir Tsunoda marquer des points à la maison.
Ah ben c'est fabuleux, écoute, de toute façon, là-bas, vraiment, c'est l'expression qu'on utilise à chaque fois, pour les fans japonais, on les voit déguisés, accoutrés, comme on veut, c'est d'ailleurs rigolo et très sympa, les pilotes, ce sont des demi-dieux, et le mot est vraiment adapté, parce que il les vénèrent, mais ils ne les embêtent jamais, ils n'osent pas s'approcher, ils les considèrent avec énormément de respect, donc quand c'est un pilote japonais, effectivement, et tu le rappelais, ça fait quand même 12 ans qu'un Japonais n'a pas pris de points sur son sol, c'était un événement considérable. On rappelle qu'on est également dans le domaine de Honda, hein, ce circuit qui a été inauguré en 1962, qui a servi de base d'essai pour Honda. Encore une fois, c'est le préféré des pilotes. Enfin, moi, je le trouve absolument fabuleux. Quand tu vas là-bas, d'abord, il y a des dénivelés. Alors, bien sûr, il est un peu étroit, Alex le rappelait. C'est un peu un circuit à l'ancienne, mais quel baston! C'est un endroit absolument formidable. Un peu dangereux, il faut le rappeler. On a vu lors de l'accrochage, effectivement, entre Ricciardo et Albon. Par parenthèse, mon opinion là-dessus, c'est incident de course. Bien sûr que Ricciardo ne le voit pas, mais on est dans le deuxième virage. À la mort du deuxième virage, y a des voitures partout. Alors, il ne laisse pas trop de place à Albon. Je dirais aussi, Albon, il le sait qu'il va venir chercher la trajectoire à droite.
Ouais, ouais.
Donc, c'est un incident de course. On va pas, faut pas épiloguer là-dessus. Bref, en tout cas, c'est une véritable messe. Et puis, il y avait donc au total 230 000 spectateurs sur le week-end à Suzuka. C'est vraiment un rendez-vous absolument somptueux.
Avec, tu le disais, ce circuit qui est fait de plein de dénivelés. Et d'ailleurs, le dépassement de Tsunoda, il est magnifique. Hein, à l'extérieur, dans une courbe un petit peu plongeante, là, où c'est vraiment ultra spectaculaire. Paul, on va aussi parler de Mercedes quand même. On y a cru un petit peu pour Lewis Hamilton, notamment samedi lors de la séance de qualif. Il a signé sa meilleure séance de qualif de la saison, Lewis, en dominant notamment George Russell. Et puis en course, finalement, on a vu que cette Mercedes-là, elle faisait pas le poids. Ils ont du mal à maîtriser la monoplace. Hamilton le disait avant le Grand Prix du Japon ou pendant les séances d'essai. Dès qu'il y a du vent, elle devient incontrôlable. Bon, c'est très, très difficile de maîtriser cette voiture alors qu'on pensait qu'il y avait un petit regain de forme à côté Mercedes, peut-être avant ce Grand Prix du Japon.
Ouais, mais moi, j'ai tout simplement envie de vous dire que c'est la Bérésina pour l'équipe de Toto Wolff. On rappellera le classement. 7e, George Russell a quasiment 46 secondes, Lewis Hamilton termine 9e à presque 50 secondes, elles n'y sont pas, les Mercedes, on pourra parler d'Alpine tout à l'heure, hein, qui n'y est pas non plus, mais c'est vrai que pour un top team comme cette écurie Mercedes, ça ne fonctionne pas. On dit depuis le début de la saison dans le paddock F1 sur AMC que George Russell est en train de prendre le lead, hein, sur Lewis Hamilton, mais là on peut vraiment se poser la question, Nico, Jean-Luc, Alex, de savoir si vraiment Lewis Hamilton n'a pas déjà la tête chez Ferrari, hein, lui qui a glané quasiment tous ses titres avec Mercedes, il est aux abonnés absents, seulement, tu le rappelais Nico, 10 points au compteur depuis le début de la saison. Je pense que ce sera très très long pour Lewis Hamilton, hein, ce championnat du monde de 2025. Elles sont quasiment garées, les Mercedes. On voit effectivement les Ferrari qui sont dans le haut du plateau, mais on voit également les McLaren ou encore la Aston Martin de Fernando Alonso, terminer souvent régulièrement devant Russell et devant Hamilton. Ce sera vraiment très très long. Et je pense que le déclin est amorcé chez Mercedes depuis, on le sait déjà, pas mal de temps. Hein. Mais là, c'est de mal en pis pour l'écurie allemande et notamment pour Lewis Hamilton, comme tu le précisais.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait notre ami Toto Wolff? Bah, il en profite pour continuer sa drague. C'est un peu un forceur, hein, Toto Wolff, à Max Verstappen, bien évidemment. Écoutez cette petite séquence en conférence de presse. On est en plein cœur de la conférence de presse et il y a un journaliste qui dit: tiens, on a parlé avec Toto Wolff, il nous a dit que les Red Bull et Max, vous serez très dur à rattraper cette saison. Écoutez cet échange, il est assez sympa.
En parlant à Toto, il a dit que personne ne te rattrapera cette saison. Je suis sûr que Checo a probablement un avis différent à ce sujet, et peut-être Carlos aussi. Mais est-ce que ça te donne l'impression que ce championnat est presque déjà dans la poche? Dernièrement, Toto a été vraiment gentil, disant beaucoup de belles choses à mon sujet.
Voilà. Même Verstappen, il en rigole, Jean-Luc, en conf de presse, en disant: ouais, c'est vrai que Toto, ouais, en ce moment, il me brosse un peu dans le sens du poil quand même. Hein.
Non, mais bon, tu sais, dans les team managers, à part, et c'est un compliment que je lui fais, Fred Vasseur, c'est vraiment le championnat du monde des montreurs de chiffon rouge et des racoleurs. Bon, bah, Toto, avec sa manière et ses propos, là aussi, il le caresse dans le sens du poil. Je sais pas s'il a un réel espoir que Verstappen quitte le baquet de la meilleure monoplace du plateau pour venir piloter, je fais de la provoque, hein, cette Trapanel. Non, il n'y a aucune chance pour le moment. Il peut l'offrir un pont d'or, il est pas fou Verstappen, il veut continuer à aligner les victoires. Bah, si Mercedes ne parvient pas à redresser la barre et à proposer une machine qui marche, il va jamais aller là. Alors, chez Ferrari, pourquoi pas avec Hamilton? Non, je rigole.
Non, mais c'est vrai que c'est assez fou, Alex, de voir ça. En fait, on a l'impression que Toto, il parle même plus de la course, il parle même plus de sa monoplace actuelle, il parle plus de ses pilotes, on l'entend. Alors bien sûr, c'est les médias aussi qui relaient à chaque fois le moindre propos de Toto Wolff dès qu'il parle de Max Verstappen, mais on a l'impression que voilà, comme si cette saison en fait c'était une saison de transition, que Mercedes avait abandonné un petit peu toute ambition pour se concentrer sur l'année prochaine, quoi.
Il y a peut-être un petit peu de ça. Enfin, du moins, je commence à penser ça, surtout quand on voit certaines déclarations de Sir Lewis Hamilton, quand il dit tout de même qu'il a des doutes sur le fonctionnement du design de ce châssis. Quand il fait des comparaisons à Ferrari, il fait des comparaisons à Red Bull, il fait des comparaisons aussi même à Aston Martin ou à McLaren, et ce qui prouve aussi que McLaren a fait une excellente voiture parce que le châssis est très bon, ils ont le même moteur que Mercedes. Bizarre. Mais voilà, c'est de ce principe-là, on se pose des questions forcément autour de Mercedes. La crise, elle est toujours là, parce que là, on est clairement empêtré dans une crise. Quand Mercedes est 7e et 9e d'un Grand Prix du Japon, et même d'un Grand Prix surtout à la régulière, oui, c'est une crise qui est empêtrée réellement du côté de chez Mercedes. Hamilton, on en parlait au début, est-ce qu'il est toujours un petit peu dans cet aspect de penser à l'année prochaine d'ores et déjà? Oui, clairement. Là, on arrive à un point, c'est terminé pour lui. Surtout qu'on voit les déclarations de Toto Wolff aussi derrière, qui cherche absolument le bon remplaçant à Sir Lewis Hamilton. Mais en tout cas, là, c'est surtout pour Toto Wolff. Quand il fait des petites déclarations sur Verstappen, même pas des petites, mais clairement des gros appels du pied, j'en ai vu des gens en boîte, des mecs en boîte moins forceurs que Toto Wolff sur Verstappen.
Là, il en fait trop, là.
Mais,
il en fait trop.
Non, mais voilà, c'est surtout qu'il essaye le plus possible. Il doit absolument le plus l'amadouer possible, tellement aujourd'hui Mercedes ne peut pas vendre une réelle voiture et un réel projet à Max Verstappen. Moi, je me pose réellement la question de comment Mercedes peut se relever au fil de la saison. Quand on a un pilote qui est en train de partir et qui va partir de toute façon, et qui a même, semblerait-il, déjà la vision sur l'année prochaine avec la Skoda Ferrari, qui est un rêve absolument incroyable pour Lewis Hamilton et même pour la Formule 1 elle-même. C'est un rêve de pouvoir associer Lewis Hamilton et bien évidemment Ferrari, et c'est normal même de penser qu'Hamilton pense déjà à l'année prochaine, tandis qu'on a un George Russell qui, pour moi aussi également, j'ai du mal à le voir en tant que futur leader de Mercedes. Donc dans la globalité, on a une situation chez Mercedes qui est très indécise au niveau de l'avenir, et on est empêtré dans une crise à l'heure actuelle, et c'est compliqué pour Mercedes de se relever, et je me pose des questions forcément sur comment Mercedes peut se relever au niveau de cette situation. Et là aujourd'hui, forcément,
on va demander à Jean-Luc, il va nous répondre, c'est le team principal du paddock RMC. Non mais comment ils peuvent se relever? Déjà, comment psychologiquement, moi je me mets à la place de Toto Wolff, tu peux essayer de raccrocher un peu Hamilton pour lui dire bah lâche pas quand même, et puis il faut que l'histoire elle se termine bien avec tout ce qu'on a fait quand même. Ça serait triste de voir Hamilton quitter comme ça Mercedes par la petite porte. Et puis en termes de perf, ce que tu disais Jean-Luc, c'est qu'ils doivent absolument aussi relever la tête, bah, pour rester attractif pour l'année prochaine et pour la future réglementation 2026. C'est-à-dire que si tu passes à côté de cette saison, quand même, même si ça reste Mercedes, avec tout ce qu'a fait Mercedes par le passé, les pilotes ils vont commencer à s'interroger sur bah, est-ce que j'y vais, quoi.
Oui, non, mais Mercedes, c'est une machine de guerre, hein. On les a vus réagir. Alors, où ils ont raté le coche, on l'a dit et redit, et c'est évidemment au changement de réglementation en 2022. Là, ils se sont entêtés sur un concept qui apparemment n'était pas le bon. Ceci dit, et toutes les comparaisons, là, il faut être vraiment ingénieur pour le faire, hein. J'ai lu pas mal d'études là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la Red Bull ne s'inspire pas en partie du concept de la Mercedes 2022 ? Non, bah, c'est simplement qu'effectivement, on a des pontons réduits, des pontons différents, mais il y a tellement, et puis surtout, il y a tellement de circulation d'air en dessous de la voiture, ce qu'on ne voit pas, qu'on peut pas en tirer des conclusions comme ça avec ce qu'on voit. Bref, Mercedes, avec du travail, doit et peut redresser la barre, mais ça commence à devenir effectivement inquiétant quand on voit qu'au championnat constructeur, et on évoquait, Alex évoquait, je crois, le fait qu'ils ont le même moteur, McLaren a totalisé déjà 69 points au championnat, Mercedes 34, c'est-à-dire la moitié, après 4 Grands Prix. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème d'écurie, un problème de machine. Et donc, ça veut dire que le châssis, clairement, McLaren est nettement meilleur, puisque les moteurs sont les mêmes. Bon, on ne va pas suspecter le fait que les pilotes, le duo de pilotes de McLaren soit nettement supérieur au duo de pilotes de Mercedes. Ce serait insultant, avec un septuple champion du monde. Donc, ce n'est pas ça la question. Donc, il faut que Mercedes redresse gravement la barre. Ils sont challengés par Aston, j'allais dire plutôt par Alonso tout seul, hein, ou presque. Donc, ça veut dire que, oui, la situation est périlleuse. Maintenant, il n'y a eu que 4 Grands Prix, encore une fois. On va voir débarquer extrêmement de nouveautés dans les Grands Prix qui viennent. Hein. Surtout quand on va revenir du côté de l'Europe, traditionnellement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, là, on a la Chine. Après, on a Miami, c'est encore un petit peu loin. Mais dès qu'on va arriver en Émilie-Romagne, c'est-à-dire à la mi-mai, il va falloir que Mercedes se remette dans le coup.
Ouais, ça c'est une certitude, mais ça fait mal au cœur quand même de les voir aussi loin et de ne pas pouvoir se mêler un petit peu à la lutte avec les Ferrari, les McLaren, on se régalerait un petit peu plus. Paul, c'est l'heure de ton fameux Punto Alpine. À chaque podcast, il est là, celui-là, me dit, ah, voilà. J'ai envie de parler d'Alpine, et c'est ton moment. Vas-y.
Et de plus en plus, on rentre dans la dépression, attention.
Ouais, Alpine va de mal en pis, hein. tu le rappelais dans le sommaire, hein. Aucun point marqué depuis le début de la saison. 15e et 16e, sans l'abandon encore une fois du pilote américain Logan Sargeant, eh bien, elles auraient refermé la marche de ce Grand Prix de Suzuka. Si des améliorations ont été apportées, ce sont encore une fois les mots d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly pour ce Grand Prix de Suzuka, et même si les qualifications ont été peut-être un petit peu meilleures, et encore une fois il faut le rappeler, les écarts sont infimes en haut de la grille mais également en bas de la grille, elles n'avancent pas, elles sont aux abonnés absentes. Et,
Ocon c'est ici en Q2 quand même.
Il s'est ici en Q2 pour terminer encore une fois très très loin, hors des points. Hein. Elles ne peuvent pas aujourd'hui à la régulière viser les points dans ce championnat. Pourtant, les pilotes sont encore une fois très talentueux. Hein. Esteban Ocon et Pierre Gasly vont vite, ils l'ont prouvé par le passé. Mais aujourd'hui, on évoquait la situation de Mercedes, hein, qui va certainement vivre une année sans. Mais on peut parler d'une année sans aussi, Nico, pour cette formation alpine. Et on peut se poser des questions aussi pour l'avenir d'Alpine en Formule 1, tant aujourd'hui, eh bien, ça ne marche pas avec, pourtant on le rappelle encore, avec des pilotes vraiment très très talentueux que sont Esteban Ocon et Pierre Gasly.
Ah, mais c'est une saison cataclysmique. Alors en plus, pendant ce Grand Prix du Japon, les deux pilotes se sont un petit peu touchés. Écoutez Esteban Ocon sur cette collision entre lui-même et Pierre Gasly.
C'est sûr que ça nous abîme la voiture, on n'a pas perdu énormément de performance avec ça sur les deux voitures, donc au final ça change pas l'image de la course, qui reste qu'on a essayé des choses un petit peu plus agressives sur la stratégie, on a réussi à être dans le mix à un moment avec les autres, mais on n'était pas assez rapide clairement pour les garder derrière, et je pense qu'on a fait probablement un bond en avant en qualif, mais clairement on n'est pas où on veut être en course, donc il nous reste beaucoup de boulot.
On notera la petite pique d'Esteban à Pierre, hein, dans le petit message quand même.
Ouais. Alors oui, parce que le constat il est terrible, hein, quand même pour Esteban. On n'est pas assez rapide en course. Pierre lui a dit que cette collision, ça l'avait bien impacté. Alex, hein, notamment, il avait perdu pas mal de points aéro et qu'il n'avait pas pu conduire une voiture. Pierre aussi a dit que c'était probablement le pire comportement d'une voiture en course depuis bien longtemps. Hein, donc et sans forcément rester sur ce petit fait de course avec Esteban. Donc voilà, c'est. Tu sens qu'en fait là les gars ils sont désabusés, Alex.
Ils sont désabusés, oui clairement. Et puis oui, ce petit message à Esteban Napier pour dire oui, on n'a pas perdu trop de points d'aéro par rapport à tout ça, alors pour juste pour montrer qu'Esteban a fait une meilleure course que Gasly, où il a eu un meilleur rythme. Voilà, c'était le petit pic en tout cas d'Esteban à Pierre. Mais dans la globalité, oui, vraiment, du côté de chez Alpine, on est désabusé. Et moi, je me pose réellement des questions et j'aimerais réellement comprendre comment un constructeur en Formule 1, on parle de Renault, on va dire Alpine, c'est un rename, mais c'est Renault dans la globalité. Comment une écurie qui est Renault dans l'histoire de la Formule 1 puisse se retrouver dans une telle situation aujourd'hui en Formule 1 en 2024 ? Je suis pas loin de dire que s'il y a quand même une part de honte à avoir. Quand on est constructeur en Formule 1 et qu'on se bat par Sauber, par Haas, par même, on va dire, même Williams, parce que Logan Sargeant a quand même dosé, on va dire ça ainsi, quand même, les deux Alpines durant une grande partie de ce Grand Prix, avant de faire l'offrande à Alpine de se mettre dehors, Logan Sargeant, pour permettre à Alpine de ne pas être dernière à la régulière. Mais c'est, je ne comprends pas. Et je repenserai toujours à, ce jour du reveal de la 524 du côté d'Enstone, où j'y étais. Et cette tête d'Esteban et de Pierre, réellement, tête en bas, regardant droit, un peu méchamment, un peu désabusé, même la 524 qui venait d'être révélée, bah là on comprend mieux pourquoi ils avaient cette tête là parce qu'on est au 4e Grand Prix de cette saison et on a l'impression que aujourd'hui Alpine est à l'image de ce qu'était Minardi même à l'époque au début des années 2000. Donc
ah ouais, c'est dur ça.
Bah,
ah ouais,
c'est dur.
Bah, c'est dur.
Pas avec les mêmes moyens, hein.
Et c'est pour ça, c'est parce que c'est par rapport aux mêmes moyens et que aujourd'hui on n'a pas le droit, Alpine n'a pas le droit d'être aussi loin en tant que constructeur en Formule 1. Par rapport à la concurrence, peut-être que c'est dur de voir ça aussi par rapport à cette comparaison par rapport à Minardi, bien évidemment, mais aujourd'hui les faits sont là, c'est-à-dire que Alpine est dernière écurie du plateau, c'est pas normal.
C'est un terrible désaveu. C'est un terrible désaveu, Jean-Luc, et on le sent dans les propos d'Esteban, de Pierre. Esteban, il essaie de tout faire. Hein. On ne sait même pas comment il arrive à hisser des fois la voiture en Q2. Il fait un premier stint en course où il est très bon. Hein. Je crois qu'il monte à la 11e place à un moment, Esteban.
C'est bon, ça, il est aux portes des points. Ouais, ouais,
il est aux portes des points, mais derrière, en fait, la perf de la voiture fait qu'il ne peut rien faire quoi, à la régulière.
Bah, écoute, c'est terrible. Là, je pense que les deux hommes qui sont le plus à plaindre, ce sont les deux pilotes. Parce qu'effectivement, ils doivent conserver une motivation. C'est pour ça qu'ils ont tous les deux ce discours, évidemment, un peu abstrait, quoi, parce qu'on les entend, ah oui, on a apporté des améliorations, et ils savent manifestement, parce que tout le monde progresse, hein, qu'il va falloir que Alpine progresse plus que les autres pour recoller au peloton, et comme vous le disiez très justement, là c'est quasiment ou totalement la dernière écurie du plateau, ce qui est inadmissible, mais une nouvelle fois, c'est la conséquence de ce qui s'est passé précédemment, on a décapité cette équipe de tous les côtés, on a perdu une bonne douzaine de décideurs. Ils n'étaient pas tous nuls, hein. Au contraire, chacun était là en train de mettre en place ses hommes, sa stratégie, ça prend du temps. Là, on a l'impression qu'elle est totalement déboussolée, c'est presque un poulet sans tête, hein. Ça court dans tous les sens, mais ça ne produit pas de résultats. Alors, avec toutes les réserves d'usage, on voit que les pilotes sont très très proches l'un de l'autre. Souvent, il y a un dixième d'écart, tant en qualif qu'en course d'ailleurs. Donc, ils sont vraiment très proches, ils font absolument ce qu'ils peuvent. Et puis bon, il y a eu heureusement cette friction entre les deux qui ne s'est pas soldée par des résultats. Mais on voit que bah, ils sont à l'affût du moindre espace, hein, sur la piste, du moindre centimètre carré pour essayer d'y placer les roues de la monoplace. Non, on peut dire que c'est tragique, déjà on peut le dire. Alors, on va attendre, là aussi, on va leur laisser peut-être encore 2-3 Grands Prix pour voir s'ils se rapproche, comme vous le disiez, bah de Sauber, évidemment, de RB ou de Williams, mais ça devient plus que problématique et moi je suis très inquiet, peut-être encore plus qu'eux.
On va essayer de se faire peut-être un podcast, hein, 100% Alpine, en essayant d'inviter aussi des gens qui pourraient nous parler un petit peu de ce qui se passe et des projets de l'écurie, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, quand tu vois cette équipe Alpine, Renault, 100% française avec deux pilotes français, avant une échéance aussi importante qu'un changement de réglementation en 2026, bah forcément on se pose des questions sur aussi la suite, l'engagement d'Alpine en Formule 1. Donc il y a plein de questions qui se posent et on essaiera peut-être d'y consacrer un petit peu plus de temps dans un prochain podcast. Les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses marquantes sur ce Grand Prix du Japon sur lesquelles vous voulez revenir ?
Oui, Nico, si tu veux bien, on peut évoquer Jules Bianchi quand même. Hein, parce
bien
que
sûr.
C'est avec beaucoup d'émotion que je dis ça, puisque je commentais ce Grand Prix en direct sur l'antenne RMC avec Patrick Tambay, et à l'époque, on faisait l'intégralité des Grands Prix. Et donc, cet accident qui s'est produit juste tout à fait à la fin, on rappelle qu'il y avait eu une tornade qui avait dévasté le Japon. Le Grand Prix était parti très tard, enfin, je vais la faire brève. Donc, la luminosité était très faible, la nuit tombait, la pluie tombait également terriblement, et Adrian Sutil est sorti dans ce terrible virage le tour précédent, le virage 11. Et évidemment, Jules avait un coup à faire comme il l'a fait à Monaco, hein, où il avait amené sa Marussia dans les points. Il était même 8e à un moment, bon, il termine 9e. C'était un exploit considérable qui sauvait l'écurie. Je rappelle qu'on parlait de lui pour aller déjà chez Ferrari, et Ferrari n'avait pas osé le faire venir. Et bon, bah, malheureusement, il y a eu cette collision avec cet engin qui était en train de dégager la monoplace du pilote allemand. C'est passé, on va dire, à 1 ou 2 centimètres près. Et malheureusement, Jules a été touché, et on sait qu'il est décédé au mois de juillet suivant, en 2015. Et donc, pour lui rendre hommage, eh bien, Charles, qui est quelque part, comme il le dit, un peu son filleul, hein, puisqu'il y avait un écart d'âge entre les deux hommes, mais ils étaient très copains, leurs familles se connaissent très bien, lui rendre hommage, et il a décoré son casque spécialement. Et je pense qu'effectivement, qu'est-ce qu'il aurait aimé monter sur le podium ou gagner ce Grand Prix, Charles, pour rendre hommage à son ami Jules.
Ouais, c'était il y a 10 ans, bien sûr. Et bah voilà, on n'oublie pas, bien sûr, Jules Bianchi. Et on pense très fort à toute sa famille. Les gars, merci beaucoup, Nico, pour ce nouvel... Ouais. Oui, vas-y.
Non, Nico, j'avais encore une fois un bis répétita par rapport à ce qui s'était passé en Australie avec la victoire de Carlos Sainz. C'est la belle performance de Fernando Alonso. Tire encore bien une sûr. Fois un coup de chapeau, hein, au taureau des Asturies qui termine 6e de ce Grand Prix au volant de son Aston. Hein. Il éclabousse de sa classe, évidemment, ce Grand Prix. Toujours largement devant Lance Stroll, son coéquipier. Donc encore une fois, un coup de chapeau au double champion.
Mais je sens que c'est ton petit chouchou de toute manière, Fernando.
Dans mes plus grands rêves, pourquoi pas voir Fernando Alonso dans le baquet d'une Red Bull la saison prochaine pour aller taquiner Max Verstappen. On peut toujours rêver, messieurs. En tout cas, c'est un sacré pilote.
Tu as raison.
Moi, dans mes plus grands rêves, c'est moi dans le baquet de la Red Bull.
T'es déjà au commande du paddock RMC, Nico.
Ouais, c'est vrai. On peut pas tout avoir, t'as bien raison. Mais je suis un peu gourmand, moi, comme garçon. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Chine, bien évidemment. Le paddock RMC, c'est tous les lundis pour débriefer les courses. Vous aurez peut-être quelques épisodes bonus, hein, en plus, comme on a fait la semaine dernière. Il est toujours en ligne, d'ailleurs, ce podcast spécial Silly Season. On reviendra aussi sur les pilotes de talent qu'il y a dans les catégories inférieures. Bref, il y a plein de beaux projets en cours avec le paddock RMC. Bye bye, à dans 15 jours. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos petits commentaires. J'embrasse Ilona, par exemple, qui m'a encore envoyé un petit message privé hier sur nos réseaux en disant qu'elle adorait le podcast. Elle adore Jean-Luc, elle adore Alex Caldier, elle adore Paul Lafitte et toute l'équipe, Julien Absalon, Romain Leroutier. Elle a dit qu'elle avait partagé le podcast à tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages comme ça et même à nous dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez qu'on améliore. Parce que ce podcast, on le fait pour vous, bien évidemment. Allez, à dans 15 jours. Bye bye.
Le paddock RMC.